Europe 1 Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1.
Pourquoi autant d'angoisse? Pourquoi autant d'anxiété? Le climat anxiogène, on en parle dans Panorama juste après votre journal. Bonsoir Arthur Mériot.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
19h sur Europe 1, ici à Roland-Garros, radio officielle du tournoi. Et dans votre journal, Arthur, c'est l'une des catastrophes ferroviaires les plus importantes de l'histoire de l'Inde. Point complet sur cet accident de train qui a donc eu lieu hier et qui a fait des centaines de victimes.
Tout faire pour éviter un défaut de paiement des États-Unis. Joe Biden signera cette nuit un accord inédit entre démocrates et républicains pour relever le plafond de la dette et ainsi échapper à un désastre économique. Également dans ce journal, journée mondiale de la bicyclette. La vente de vélos électriques augmente malgré son prix élevé, mais de nouvelles aides font leur apparition. Et enfin, dernière journée de Ligue 1 à vivre sur Europe 1, un soir décisif pour Nantes qui joue son maintien.
La tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, un temps chaud mais plus nuageux au sud et toujours orageux.
A tout à l'heure pour la météo complète.
Europe 1.
288 morts et 900 blessés. C'est le bilan provisoire d'une collision meurtrière entre trois trains dans l'est de l'Inde.
Plus précisément dans l'état d'Odisha, il s'agit de l'une des pires catastrophes ferroviaires du pays. Toute la journée, les secouristes se sont activés pour tenter de sauver des victimes, tentant par tous les moyens de désincarcérer les voyageurs. Mais désormais, Wilfried de Villers, les opérations de secours ont pris fin.
Oui, parce qu'il n'y a presque plus aucune chance de retrouver des survivants. Toutes les carcasses des wagons ont été minutieusement fouillés, les blessés évacués vers les hôpitaux de la région. On parle, vous l'avez dit, d'au moins 288 morts. Le bilan pourrait encore s'alourdir. Au milieu de la nuit, hier, un train de voyageurs déraille et se couche sur la voie opposée. Quelques minutes plus tard, un autre train entre en collision avec le premier. Écoutez le témoignage de l'un des survivants.
Tout allait bien, le train roulait bien aussi. Nous avons soudain ressenti des mouvements saccadés, massifs. Et au bout de 3 minutes, il y a eu un freinage très soudain. Nous avons ressenti un impact et des personnes ont commencé à tomber du compartiment du train.
D'une violence extrême, le choc projette plusieurs wagons dans les airs et contre un train de marchandises stationné à proximité. Le Premier ministre indien Narendra Modi s'est rendu sur les lieux de la catastrophe aujourd'hui, promettant de poursuivre les responsables, tout comme le ministre des chemins de fer indien Ashwini Vaishnaw qui s'est exprimé tout à l'heure.
Un comité de haut niveau a été annoncé. Il mènera une enquête sur tout cet incident. Le commissaire à la sécurité ferroviaire fera également une enquête et ils iront trouver la cause profonde de cet accident. Pourquoi cela s'est-il produit ?
Selon le premier rapport d'inspection publié par le site d'information India Today, c'est une panne de signalisation qui serait à l'origine de la catastrophe. L'un des trains de voyageurs serait ainsi entré dans la mauvaise boucle ferroviaire au lieu du trajet initialement prévu.
Merci Wilfried de Villers. Une semaine après sa victoire, Recep Tayyip Erdogan a prêté serment, réélu 5 ans supplémentaires à la tête de la Turquie. Il a été officiellement investi aujourd'hui. Une vingtaine de chefs d'État, 45 ministres étrangers et le secrétaire général de l'OTAN ont assisté aux cérémonies. La présence de ce dernier attire d'ailleurs l'attention puisque depuis 13 mois, la Turquie est en position de confrontation avec l'organisation en maintenant son veto contre l'entrée de la Suède dans l'Alliance Atlantique. La contre-offensive ukrainienne est prête. Dans une interview accordée au Wall Street Journal, Volodymyr Zelensky l'assure, nous allons le faire et nous sommes prêts. Son objectif est clair, libérer cette année les territoires à l'est du pays annexés par Moscou. Plusieurs scénarios seraient sur la table. Ces dernières semaines, la défense de Kiev se heurte à des frappes répétées de missiles balistiques et de croisières russes. Mais selon des responsables militaires ukrainiens, la contre-offensive reste en bonne voie. Dénouement ce soir de la situation concernant la menace économique qui pèse sur les États-Unis depuis plusieurs semaines. Joe Biden va signer l'accord sur le budget trouvé entre les républicains et les démocrates. Un accord qui permet à la dernière minute de relever le plafond de la dette américaine et d'éviter ainsi un défaut de paiement qui aurait pu se produire dès lundi. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Le président américain a tenu à s'exprimer devant ses concitoyens hier soir.
Oui, c'est un Joe Biden apparemment très content de lui qui s'est adressé aux Américains. Alors, histoire de souligner la solennité du moment, il a pris la parole depuis le bureau ovale. C'est la première fois de son mandat. Grâce à l'accord sur le plafond de la dette, la crise a été évitée, a-t-il dit, Et à l'entendre, les États-Unis ne sont pas passés loin de la catastrophe.
Si nous n'avions pas réussi à nous mettre d'accord sur le budget, notre économie serait entrée en récession. 8 millions d'Américains auraient perdu leur emploi. Et la réputation de l'Amérique, partenaire financier le plus solide et le plus fiable, aurait été détruite.
Joe Biden a salué l'aspect bipartisan de cette décision, mais quand on y regarde de plus près, le président est peut-être le seul à être satisfait du résultat. De nombreux républicains ont l'impression de s'être fait rouler en n'obtenant pas une réduction massive des dépenses. Les démocrates les plus progressistes sont furieux de voir les concessions qui ont été faites, comme par exemple l'obligation de travailler pour obtenir l'aide alimentaire. Ils ont bien sûr tous en ligne de mire les élections de l'année prochaine. Joe Biden n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler tout ce que son administration avait déjà accompli dans un discours qui ressemblait beaucoup à un discours de campagne.
Merci à Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Et on reste dans l'actualité économique. C'est un soulagement pour le gouvernement français. L'agence Standard & Poor's maintient la note de la France à double A, alors qu'il y a un mois, l'agence Fitch, au contraire, abaissait cette évaluation. S&P ne suit donc pas le mouvement. Pour expliquer ce choix, elle invoque les réductions prévues des déficits et la réforme récente des retraites. Elle estime néanmoins que le pays a des perspectives qui restent négatives. Un message avant tout politique pour le directeur adjoint à l'OFCE, Mathieu Plane.
Cette note était très attendue suite à ce qui s'était passé par Fitch, parce que finalement, il y avait eu aussi un petit effet boomerang avec la position du gouvernement et d'Emmanuel Macron, de dire que la réforme des retraites était menée justement pour des questions budgétaires et aussi de dire qu'il fallait avoir un sérieux budgétaire vis-à-vis des marchés. Et on voit que finalement, ça avait été sanctionné parce que il n'y avait ni eu la bonne appréciation des agences de notation et puis quelque part, une grande contestation sociale. On voit que cette note, au fond, n'a pas tant d'impact que ça. Le contexte macroéconomique, l'économie, les marchés le connaissent. Donc c'est vrai que ça ne va pas changer radicalement la vision des marchés par rapport à la France. Et donc aujourd'hui, l'enjeu, j'allais dire, est presque plus politique que économique.
Propos recueillis pour Europe 1 par Margot Faudéry. Et en ce 3 juin, nous célébrons la journée mondiale du vélo, un moyen de transport de plus en plus plébiscité par les Français. On compte 2,5 millions de ventes en 2022, dont un quart était un deux-roues électrique. Une augmentation de 12% sur un an. Mais le frein principal reste le prix d'achat. Toutefois, des aides et de nouveaux types d'offres font leur apparition pour démocratiser son usage. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
Il faut compter en moyenne 2000 à 2500 euros pour s'offrir un vélo électrique. Pour faire baisser la facture, il y a deux possibilités qui sont cumulables, le bonus écologique et la prime à la conversion. Bonus de 300 ou 400 euros maximum pour les ménages aux revenus les plus modestes. Mais il existe aussi de nouvelles offres de location courte ou longue durée. Une flexibilité incarnée par exemple par la jeune entreprise Moto, fondée par Driss Ibn Mansour, spécialiste du secteur, qui constate en ce moment la fin de la pénurie créée par la très forte demande depuis 2 ans. Une bonne nouvelle pour les consommateurs.
On constate plutôt une baisse des prix des vélos électriques à la vente en ce moment. Les industriels ont produit en masse pour faire face à cette demande, sauf qu'ils ont surproduit. Donc il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui sont surstockées et qui, pour se débarrasser de leur stock, baissent les prix.
Et si l'achat reste trop onéreux pour votre budget, les formules d'abonnement mensuel se développent. 60 à 90 euros par mois avec des nouveaux acteurs comme Moto, Dance ou Swapfit, mais aussi des plus classiques comme Decathlon.
Merci Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
19h08, dans un instant la suite de votre journal, Arthur Murieux avec cette dernière journée de Ligue 1 à vivre ce soir dès 21h sur Europe 1. Restez avec nous, nous sommes ici à Roland-Garros, Europe 1 radio officielle du tournoi, à tout de suite.
Europe 1 soir week-end, Pierre de Villeneuve.
Et retour ici dans les allées de Roland-Garros, il est 19h10 sur Europe 1, la suite du journal d'Arthur Muriot et un record du monde, celui de la plus grande dictée jamais organisée.
Et oui, ils seront 5000 à se rendre demain sur les Champs-Élysées, transformés en véritable salle de classe à ciel ouvert. Au total, 3 dictées sont prévues avec une lecture assurée par des invités, l'adjoint au sport de la ville de Paris, Pierre Rabadan, l'écrivaine Catherine Pancol ou encore le journaliste littéraire Augustin Trapenard. Pour lui, c'est avant tout un événement solidaire. Écoutez.
3 grandes dictées demain sur les Champs-Élysées. J'y vais moi personnellement en conteur, mais surtout en tant que parrain de Bibliothèques sans frontières, qui est une association dont je suis le parrain depuis 6 ans et qui défend l'éducation, l'information et la culture auprès des plus démunis. Et tout le monde, les gens qui participent, mais aussi les gens qui viennent assister un peu autour, pourront déposer des livres dans des boîtes à livres et ça nous servira à remplir nos bibliothèques en France et dans le monde entier. Il y aura 3 dictées, 1700 personnes à chaque fois, ce qui fait un peu plus de 5000 personnes en tout, ce qui constitue paraît-il, un record. Mais l'idée, c'est vraiment de partager un trésor, le trésor de la langue française, et de faire d'un exercice qu'on connaît tous, un jeu de société.
Et on quitte les stylos de la dictée des Champs-Élysées pour les raquettes de Roland-Garros.
Tout de suite, retrouvez Direct Match avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Cédric Chasseur du service des sports d'Europe 1 assiste au tournoi pour nous. Cédric, c'est l'Américain Taylor Fritz qui joue en ce moment même.
Oui, sur le court Suzanne Lenglen face à Cerundolo, l'Argentin tête de série numéro 23 face à Taylor Fritz, l'ami hein, des supporters français. On se souvient jeudi soir de son match face à Rinderknecht, terminé dans la controverse avec les huées du public. Je peux vous dire que Cerundolo a un peu l'avantage du coup du soutien du Suzanne Lenglen, et c'est lui l'Argentin qui mène deux manches à une, 3-6, 6-3, 6-4. 5-4 pour Taylor Fritz, l'Américain, dans la quatrième manche. Et pour l'instant, une balle pour revenir à 5 partout pour Cerundolo sur son service. Côté court, Simone Mathieu, c'est du tennis féminin avec Bianca Andreescu, la Canadienne, qui est opposée à Alesia Tsurenko, l'Ukrainienne. Et pour l'instant, avantage à l'Ukrainienne qui mène 6-1, 3-1. Et le break est fait dans cette deuxième manche. Une pensée aussi pour terminer pour les détenteurs de billets de journée sur le court Philippe Châtrier, le court central, où on assiste actuellement à un match du double homme, un peu à cause des événements, parce que Rybakina a déclaré forfait dès le début de la journée. Holger Rune n'a joué que 2 heures. Il l'a battu en 3-7 Alberto Olivieri, et Iga Świątek n'a fait que passer sur ce central 51 minutes, 6-0, 6-0 face à Wang, la chinoise. Il va falloir attendre 20h30 pour le match de la Night Session. Ce soir, c'est Alexander Zverev, l'allemand, face à Frances Tiafoe.
Merci Cédric Chasseur du service des sports d'Europe 1 en direct de Roland-Garros. En rugby, le Racing 92 se qualifie pour les demi-finales du top 14. Il a battu son voisin du Stade français 33-20 pour une place en finale. Les franciliens feront face à Toulouse, premier de la saison régulière. Rendez-vous vendredi prochain à Saint-Sébastien. Et ça vient de tomber en football, le PSG officialise le départ de Lionel Messi. Mais l'actualité du football est également marquée par cette 38e journée et dernière journée de Ligue 1, avec un match sous haute tension pour AC Ajaccio, Olympique de Marseille. Hier, de violents affrontements ont éclaté entre supporters marseillais et ajacciens. La police a été contrainte d'intervenir à plusieurs reprises pour calmer la situation. Au total, pour la rencontre de ce soir, plus de 600 Marseillais sont attendus en Corse. La préfecture a annoncé la création d'une fan zone pour les accueillir et ainsi les empêcher de pénétrer dans la ville d'Ajaccio. Le maire a demandé de son côté l'annulation du match et ainsi éviter le risque de voir les violences prendre une ampleur incontrôlable. Parmi les autres matchs de ce soir, Nantes-Angers, les Canaries, européens cet hiver et au bord de la relégation aujourd'hui, ils ont sombré en quelques semaines et ce soir, ils vont se livrer un duel à distance avec Auxerre pour l'ultime journée de la saison. Du côté de la Beaujoire, on se montre assez pessimiste quant aux chances de maintien des jaunes et verts, lesquels accueillent pourtant le dernier et déjà relégué Angers.
Tous les week-ends, je vais au stade. Tous les week-ends, j'y crois.
Pour Nino, l'espoir a fondu, comme l'écart de points qui séparait le FC Nantes de la zone de relégation il y a encore quelques semaines.
Là, c'est difficile d'y croire.
Et pour cause, les Nantais, qui n'ont plus gagné en championnat depuis mi-février, sont maintenant dans l'obligation de l'emporter face à Angers, tout en priant pour qu'Auxerre ne batte pas Lens en même temps. C'est ainsi que ce soir, à la Beaujoire, les supporters auront autant les yeux rivés sur le terrain que l'oreille à la baie des Champs, comme Guillaume.
On suivra en live ce que fait Auxerre. On sera supporter de Lens et de Nantes.
Nantes qui n'a plus son destin entre les pieds va donc batailler pour éviter la descente après avoir connu les joutes européennes.
De se retrouver à Turin et potentiellement de se retrouver à Concarneau la saison prochaine, l'écart est un peu brutal.
Brutal, mais on s'y prépare. Nino, par exemple, a déjà potassé sa géographie.
J'ai déjà regardé sur la carte où se trouvent Concarneau, Rodez, Pau, etc. Au cas où si on fait les déplacements en Ligue 2 l'année prochaine. Faut se préparer, c'est ça.
Seule consolation peut-être, notamment pour les plus anciens, ce sera l'occasion de retrouver l'effervescence d'un grand classique du championnat de France en version Ligue 2, cela dit, entre Nantes et Saint-Etienne.
J'aimerais autant qu'il reste, hein, c'est sûr. Hein. On les aime bien, les petits canaris.
Nantes, Charles Guyard, Europe 1.
Voilà, Nantes-Angers, mais également les autres rencontres de la soirée seront à suivre, bien sûr, lors de ce multiplex exceptionnel d'Europe 1 Sport. Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir Pierre de Villeneau.
On vous retrouve dès 20h.
N'est-ce pas, dans notre studio délocalisé de Roland-Garros, ici même pour suivre le tennis, la Night Session et faire le bilan, analyser avec nos experts et notamment Cédric Pelline toute cette journée de Roland-Garros et la deuxième semaine qui s'annonce. Et puis le foot, bien sûr, à partir de 21h, le multiplex pour cette dernière journée, avec les accessions encore pour les Coupes européennes. européennes comme l'Europa League notamment, Rennes, Monaco ou Lille peuvent éventuellement accéder à ces compétitions en fonction des résultats, et c'est surtout effectivement la dernière place pour rester en Ligue 1 et une autre effectivement pour aller directement en Ligue 2, ce sera soit Nantes, soit Auxerre. Deux points d'écart, ballotage favorable pour les Auxerrois en effet, mais attention, les Nantais peuvent battre Angers ce soir et Lens peut battre Auxerre, donc les Nantais peuvent inverser la tendance. Voilà pour le programme du multiplex. On évoquera aussi dans nos débats le Paris Saint-Germain avec cette grande lessive. On le disait, c'est officiel pour Lionel Messi, mais hier Sergio Ramos ou encore l'entraîneur Christophe Galtier ne seront pas là la saison prochaine et ça va sans doute continuer.
Et on en parle ce soir, merci Lionel Rousseau. On termine par le ciel.
C'est la météo du week-end avec Aldi. Aldi, des produits de qualité à des prix discount toute l'année.
Avec une situation qui évolue assez peu finalement, Valérie Darmon.
Et ce sera le cas jusqu'en début de semaine prochaine, avec toujours des orages dans le sud et avec toujours un temps sec et ensoleillé au nord, sous des maximales légèrement en baisse par endroits et des valeurs affichées par Météo France entre 19 à Boulogne-sur-Mer et 29 à Cahors, 24 annoncés à Lons-le-Saunier et Lille, 25 à Nice, Marseille et Angoulême, 27 à Brive-la-Gaillarde, à Besançon et Carcassonne, 27 également à Paris, 28 à Toulouse, à Tours et Angers et donc 28 degrés à Montauban. Du côté du ciel, la situation va changer un petit peu en deuxième partie de semaine prochaine. On a une dépression qui vient d'Espagne et qui va repousser les hautes pressions vers le nord-est. Les orages pourraient alors remonter davantage vers le nord pour concerner les deux tiers sud du pays, ce qui serait une bonne nouvelle d'ailleurs pour les sols. En attendant demain, rien de neuf, sous le ciel bleu au nord et sous les orages du sud.
Merci Valérie Darmon.